va le démaquiller avant de... La dispute. Ce soir, la littérature. Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucine Como, Boris Pino et Grégoire Di Fior, et prise de son assurée ce soir par Antoine Pitiloni, réalisation David Jacubo-Biez. Autour de moi ce soir, Florent Georgesco, il est là, Philippe Chevillier aussi, et Jean-Christophe Briançon regarde la télé, ah non, c'est sa tablette. Vous êtes avec nous, Jean-Christophe ?
Présent.
Présent. On va parler ce soir de Détails de Marcel Cohen chez Gallimard, histoire de la littérature récente, tome 2 d'Olivier Cadio chez POL, et Un certain Monsieur Picalny de François-Henri Désérable chez Gallimard également. Boris Pino surveille à la fois Twitter et Facebook. Il a découpé son écran en plusieurs petits morceaux pour faire cela. Puis il y aura toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute. Ce soir, des invitations pour l'exposition « Hello, my game is » par Invader au Musée en Herbe à Paris jusqu'au 7 janvier. Dispute littéraire que nous ouvrons avec Détail, nouvel opus dans la série des Fées, publié entre 2002 et 2010 par Marcel Cohen. Pour mieux comprendre de quoi il s'agit, il faut d'abord dire que Marcel Cohen a réellement arpenté le monde, sans même attendre la fin de ses études. Suède, Himalaya en stop, École du Louvre, puis Moyen-Orient, États-Unis, Inde, puis il est devenu journaliste et par ailleurs a entrepris un travail d'écrivain, fait lecture courante à l'usage des grands débutants, paru chez Gallimard en 2002, proposé 123 textes courts, fait 2 une centaine de courts chapitres et pareillement pour fait 3. Il s'agit souvent dans ses récits d'un homme, des récits sans lien apparent, mais avec tout de même des récurrences liées à la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, ou à la musique. L'homme n'avait jamais pensé que l'attention qu'il vouait à des détails aussi insignifiants fût tout à fait normale. D'ailleurs, ses découvertes ne dévoilant rien d'essentiel, il osait à peine les signaler à ses proches. Il n'en avait jamais déduit non plus que son attention puisse relever d'une forme d'infirmité. Une simple question d'accommodation, pensait-il. Il avait du mal à passer de la vision rapprochée à une vue plus générale. S'il regardait une femme, il lui semblait ne remarquer d'abord qu'un grain de beauté sur la joue, la couleur des yeux, la nuance du rouge à lèvres, ou le dessin de celle-ci. La robe, la silhouette générale, la couleur des cheveux restaient longtemps floues dans son esprit. Plusieurs fois, on l'avait pris en flagrant délit d'ignorance, s'agissant d'évidences aussi avérées. L'homme avait interrogé un psychologue sur cette attention aux détails, mais sans laisser entendre qu'il pouvait être concerné. Le psychologue avait évoqué à mots couverts des troubles de la personnalité. La réflexion aurait dû l'inquiéter, mais l'homme s'était souvenu d'Henry David Thoreau, notant que le combat que se livrait sous ses yeux dans le Massachusetts une colonie de fourmis rouges et une armée de fourmis noires n'était pas moins important à l'échelle de l'univers que les immenses masses mises en mouvement par les campagnes de Napoléon. Quelle était la bonne échelle ? On pourrait peut-être d'ailleurs s'arrêter sur cette première question. Quelle était ou quelle est la bonne échelle pour Marcel Cohen, Jean-Christophe Briançon ? Celle du détail,
bah, a priori. Le minuscule, le détail, oui, évidemment, bien sûr. Et en l'occurrence, dans le détail, il trouve de grandes choses qui ne sont pas que minuscules. Et en l'occurrence, il trouve à faire un grand livre, je trouve. Puisque c'est à travers ce récit un peu du parcours d'un homme fantomatique qui traverse le monde comme ça, il parvient non seulement à s'atteler à des détails dans lesquels chacun d'entre nous peuvent se retrouver, ce qui nous permet accessoirement de vivre une expérience de lecteur assez plaisante, non seulement par le fait qu'on effectivement qu'on s'y retrouve, mais aussi par l'humour qu'il y met, parce que malgré une certaine lourdeur de temps en temps, une lourdeur qui tient à la mélancolie qu'il met dans son livre, on trouve quand même de réels points d'humour, en tout cas dans la forme, une forme qui nous permet d'atteindre quelque chose d'assez jouissif par instant. Et au-delà de ça, il parvient aussi donc à faire un grand livre, parce qu'un livre très sensible, mais sensible sans sensiblerie pour autant, parce que par le détail, il parvient à amener le lecteur à voir des choses qu'on voit tous, qu'on perçoit tous, mais à y mettre une tendresse qui confine au sublime de temps en temps, parce que pour voir ces choses-là, il faut quand même faire preuve d'un cœur et d'une empathie particulièrement mémorable, particulièrement belle. Entre autres, moi, peut-être ce qui m'a le plus touché, c'est dans une des nouvelles, il fait il raconte tout simplement la manière dont certaines femmes remettent leurs bretelles de soutien-gorge et en même temps remettent aussi leurs mèches de cheveux derrière leurs oreilles.
Surtout
les plus jeunes.
Font les deux en même temps.
Et c'est un détail qui est assez, c'est rien en soi, mais la manière dont il le dit nous amène à trouver dans ces gestes absolument insignifiants quelque chose de très très beau. Et c'est d'ailleurs exactement ce que dit une citation de Victor Hugo qu'il met en exergue d'une des nouvelles, en quelque sorte. C'est essayer de rendre sa force à l'insignifiant et à l'oublier. Et en l'occurrence, il le fait très très bien.
Ouais, la bretelle de soutien-gorge, ça parle des femmes, mais ça parle aussi, c'est une histoire de la mode, c'est une histoire des couleurs, oui, une histoire des comportements, et ça part du fait que dans le métro, il faut surtout poser son journal, parce que c'est quand même l'endroit idéal pour observer le monde. Alors, c'est pas moi qui parle, hein, c'est Marcel Cohen, mais je pourrais dire ça. C'est un livre pour toi, Laurent Georgescu. Je te jure, tu ne le regretteras pas. Tous nos amis l'ont adoré, les critiques sont unanimes. C'est toujours en ces termes, pensait Marcel Cohen, qu'on lui recommandait une lecture, et l'homme se demandait pourquoi on avait un tel souci de sa culture. Est-ce qu'il conseillait des livres, lui? Et comment savait-on ce qu'il aimait, puisqu'il ne parlait jamais de ce qu'il disait? Il avait l'impression qu'on retournait contre lui les livres qu'il n'avait pas lus, comme on poserait une arme sur sa tempe. Laurent Georgescu, vous pouvez enchaîner.
C'est très difficile. Dans nos métiers, c'est un peu difficile, cette page. Il a raison. Il n'y a peut-être pas d'activité plus vaine que de conseiller des livres. Moi, presque chaque fois qu'on me conseille un livre, ça tombe à côté. Je me demande si c'est pas un problème vraiment général et existentiel pour nous tous autour de cette table. Est-ce que ça marche
cette
parfois
émission, singulièrement.
Peut-être que les gens peuvent nous le dire sur Twitter. Est-ce que ça marche parfois? Est-ce qu'on a raison de conseiller? Je ne sais pas. En tout cas, je vais le conseiller aussi, ce livre-là. Je partage votre enthousiasme à tous.
Tous pour l'instant. Philippe Chevrier ne s'est pas exprimé.
À tous les trois. Philippe reste un sphinx.
C'est ce poker face. Poker face de Philippe Chevrier.
Non, pas d'inquiétude à avoir.
Ah mais... bon, alors je continue. C'est un livre, Jean-Christophe a très bien résumé. Je vais rebondir peut-être sur ce que vous disiez à propos de l'empathie, de cette sorte de tendresse qui parcourt toutes ces pages, qui est sans doute une des choses les plus fortes, parce qu'elle se démultiplie. C'est regarder chaque détail du monde qui est tout ce qui traverse le livre est une manifestation de tendresse infinie pour le monde. Et il y a quelque chose de particulièrement émouvant dans sa manière de le relier assez discrètement, par touches régulières dans le livre, à l'expérience des camps, à la guerre en effet. Et je pense à une anecdote, parce que c'est un livre d'anecdotes, c'est un livre qui d'ailleurs réhabilite en quelque sorte la littérature d'anecdotes et lui donne une sorte de profondeur métaphysique, ce qui est une des choses extrêmement sympathiques de ce qu'il fait.
Le mot est faible.
Sympathique. Non,
c'est bien
parfois,
aussi
c'est
la
bien,
sympathie. Oui, vous avez
quand
raison.
Quand on a le goût du petit et du modeste. Il y a cette anecdote à propos de Robert Antelme. Qui est, semble-t-il, il raconte une scène où Robert Antelme rencontre un journaliste, lui-même s'appelant en permanence un homme, on suppose que ce journaliste c'est Marcel Cohen lui-même, qui donc a recueilli, a observé Robert Antelme dans un moment extrêmement précieux, parce que, comme dans tout le livre, extrêmement ténu, et pourtant bouleversant, qui est cette histoire de cuillère de dans un café. Il commande un café, là, un jour qu'ils se retrouvent tous les deux dans un bistrot parisien, le garçon, en apportant le café, fait tomber la cuillère. Robert Antelme lui dit, mais le garçon s'éloigne déjà, il essaie de se faire entendre, mais le garçon ne l'entend pas. Il lui dit, je n'ai pas besoin de cuillère, je ne prends pas de sucre. Le garçon, ne l'ayant pas entendu, il revient, lui apporte sa cuillère, et alors Robert Antelme prend sa cuillère et touille son café dans lequel il n'a pas mis de sucre. Le journaliste lui dit, mais pourquoi faites-ce ? Il lui dit, je croyais que vous ne preniez pas de sucre. C'est exact, mais je ne veux pas donner au garçon l'impression qu'il s'est déplacé pour rien. Ce qui est... il a commencé le récit de cette anecdote en reliant ça à l'expérience des camps de Robert Antelme. À défaut de changer le monde, il appartient à chacun, et notamment aux rescapés des camps de concentration, de modifier au moins les petites choses qui sont en leur pouvoir, lui dit Robert Antelme. Et il y a, je crois qu'il y a vraiment un lien profond dans le livre entre l'expérience des camps, c'est-à-dire l'expérience la plus absolue de la fragilité, de tout, et cette attention aux détails dans tout le livre. Il y a dans le geste magnifique d'Antelme avec ce garçon de café une attention à l'autre, mais il y a aussi une attention à la petite cuillère, il y a aussi une attention au sucre et à la tasse de café. Les choses, les gens, les animaux, on y reviendra peut-être, ils sont très présents dans le livre et c'est très important aussi. Tout est digne de la même attention. Tout doit être autant sauvé quand on a eu l'expérience de la destruction du monde. Quand le monde entier pouvait être détruit et peut être détruit, on s'intéresse aux cuillères dans les bistrots. Et pour moi, c'est vraiment le centre de ce livre qui ensuite nous permet de traverser tous les détails du monde, quoi. On traverse donc le monde dans sa réalité profonde parce qu'on s'occupe de ces détails. Il y a ce rapport-là, ce rapport, pas de salut, mais de... Encore une fois, les mots doivent être modestes avec Marcel Cohen, de protection, d'humble protection des petites choses du monde, parce que toutes peuvent être perdues, parce que toutes sont au bord de se perdre, en quelque sorte. Dans la citation que Jean-Christophe rappelait de Hugo, Hugo parle des choses oubliées. Voilà, tout est toujours au bord de l'oubli et de la disparition, et c'est ça que sauve Marcel Cohen. Et tout converge vers ça. Son écriture, la finesse, le sens du détail dans la phrase elle-même, c'est un très grand art d'aller recueillir et protéger ce détail, cette petite chose, ces petites choses infinies dans le monde.
Alors, fin du suspense, on va entendre une première fois Philippe Chevillier parler de détails, le livre de Marcel Cohen. Philippe.
Alors, moi pas mieux, pour reprendre un langage de carte. Non, dans le chapitre 10, si je ne m'abuse, il évoque il fait une variation autour des formules contradictoires, le diable est dans les détails, Dieu est dans les détails, et je crois que là on voit aussi que la littérature est dans les détails, dans un style très simple et dans ses petites vignettes qui sont d'une limpidité incroyable et sans effet de style, se construit un puzzle qui nous raconte en fait tout un monde, c'est ce qu'on disait, et un puzzle alors qui n'est pas complet évidemment, mais on peut imaginer, on peut s'amuser à imaginer ce que seraient d'autres pièces de ce puzzle. Et ce qu'on disait, moi ce qui m'a frappé aussi, cette fantaisie qu'il y a au départ, des petites choses toutes simples où on parle des bonbons turcs, du cachou, et puis on en arrive au camp, et c'est vrai que dans ces détails, ça permet de raviver la mémoire, parce que quand on évoque par exemple cette histoire du nazi qui se plaint que on mette des vaches dans des wagons à bestiaux dans des conditions inhumaines, tout d'un coup cette image et ce détail est d'une force telle que ça remet en perspective toute l'horreur du nazisme. Et puis à travers tous ces détails aussi se bâtit l'histoire de Cohen lui-même, son rapport. Alors, on parlait du rapport à la lecture au livre, c'est extraordinaire tout ce qu'il raconte sur les livres et sa façon de couvrir les livres, quand il était enfant d'aller chez le libraire. Petit à petit, avec ces détails, on a toute une vie qui se crée. Il y a aussi l'histoire du couteau dans son enfance, l'importance du couteau, de garçon de la campagne. Ça aussi, c'est merveilleux. Et petit à petit, donc, on en arrive à avoir une forme de saga comme ça qu'on peut lire presque comme une histoire chaque soir. Et moi je trouve ça vraiment très beau, très attachant, avec de l'humour, avec des anecdotes qui nous emmènent tout à fait ailleurs par moment, mais on est toujours rattrapé par ce fil hein, de ces miniatures qui nous font dire que finalement on parle infiniment petit, puisque quand on veut tout embrasser, on n'embrasse rien du tout finalement. Ben, c'est un livre qui nous raconte beaucoup plus de choses que certaines grandes sagas épiques.
Et forcément aussi, le détail, ça passe aussi par des listes. Il y en a quelques-unes dans ce livre, notamment tout ce que l'on peut voir le 5 août 2003 dans le port de Hambourg depuis la passerelle du porte-conteneur Canmar Courage. Donc là, il y a toute une liste avec comme des débuts de récits ou presque des débuts de romans à chaque fois. Il y a aussi une liste des sculptures et monuments invisibles. Plus loin, il y aura encore détails, gestes et paroles mémorables avec des choses tout à fait étonnantes. Sourcé, hein, parce qu'on se demandait si le Krakatoa avait fait un tel bruit lors de son éruption qu'on puisse l'entendre sur un douzième de la planète.
Il y a une source.
Mais il y a des sources pour tous ces petits faits mémorables.
Je suis même allé vérifier certains noms, sources sur Internet.
Il y a des choses tellement invraisemblables.
Il paraît borgésien par moment, il paraît inventer des choses impossibles, mais tout est vrai.
Oui, parce que ça ne se situe pas dans cette... c'est pas borgésien du tout,
en réalité, non.
Marcel
Cohen. C'est journalistique, sens de la réalité.
D'une certaine façon. Et c'est vrai qu'on a parlé d'une écriture simple, moi je dirais d'une écriture, alors simple au sens qu'elle est accessible par tous,
très riche.
Et en même temps d'une précision, d'une justesse, d'une élégance. Enfin, il y a un plaisir total. Vous acquiescez, Jean-Christophe Briançon ?
Elle est simple parce qu'elle est modeste, mais elle a la modestie des gens qui peuvent se le permettre en sachant qu'ils font quelque chose de grand.
Ouais.
Et donc, en ce sens-là, elle est simple, mais elle n'est pas simpliste.
Elle est d'une richesse inouïe. En réalité, il va absolument où il veut. Justement, il a l'écriture, il a la langue de l'art du détail. Enfin, il a la langue capable d'aller chercher n'importe quoi, n'importe où. Donc, c'est un très grand style, en réalité.
Vous voulez parler des animaux, tiens, Florent?
Oui, j'avais envie de parler des animaux. C'est merveilleux ce qu'il dit des animaux. C'est... Je lis.
Ah bah oui, c'est le mieux, oui.
Il n'y a rien de mieux à faire. Avec les animaux, la franchise est si totale, si immédiate, si désarmante qu'il n'y a pas de proximité sans un reste de stupeur. Voilà ce que c'est que l'écriture de Cohen. comment vous voyez tout ce qu'il peut dire en deux lignes et demie. Comment se fait-il que nous soyons si heureux ensemble, croit-on lire dans le regard des bêtes familières? Il parle du cheval, par exemple, qui est là, qui pourrait vous écraser comme il veut, mais si son maître s'approche de lui, il s'approche amicalement et se laisse caresser les naseaux, alors que c'est un monstre. Comment les monstres? Et il y a toute une méditation sur cette étrange familiarité. Tous, dit-il, aiment qu'on les caresse sous le menton et sur le crâne. C'est ça aussi l'écriture de Cohen. Toujours la précision, toujours on est incarné dans un geste précis. J'avais aussi, c'est un livre en fait, on pourrait passer peut-être des heures à se raconter ce qu'il contient, qui est merveilleux. Peut-être ce détail extraordinaire de la croisée de fenêtres qui se reflète dans les yeux de personnages sur certains tableaux au Louvre.
Ça part d'une épingle à chapeau, me semble-t-il, au départ.
Il est aussi question d'une épingle à chapeau au Prado, cette fois. Mais
pourquoi ces peintres ont peint des choses que personne n'allait voir, finalement, si ce n'est par le souci du
détail, cher Arnaud. et du hors-champ. Et Cohen saisit parfaitement ça. Il raconte cette histoire de reflet de fenêtre au début du livre. C'est presque là aussi un programme pour le livre. Il va chercher ce qu'on ne voit pas pour ajouter du réel au réel. Il y a dans les tableaux dont il parle plus de réel encore, puisqu'il y a le réel de ce que voit le personnage en train d'être peint. Il multiplie le réel de cette manière. Enfin, le détail est un multiplicateur de réel et c'est une des grandes beautés du livre.
Oui, et puis du coup, il se dit, je vais retourner au Louvre juste pour chercher ses reflets dans les yeux. Et du coup, nous aussi, on a envie d'aller au Louvre pour ça.
Parce que, alors là, pour le coup, il n'y a pas de référence. Ouais. Et donc, nous sommes chargés d'aller trouver ça nous-mêmes.
Envie de chercher, Philippe Chevillier ?
Oui, d'autant que à chaque fois, on a le détail, il change de perspective. Parce que, par exemple, quand il est dans des situations dans le métro, c'est un peu les détails qui changent tout. Quand il parle de cette façon un peu amoureuse des femmes, puis de l'élégance masculine, ce que vous disiez tout à l'heure, on parle de la mode, et en fait, c'est une réflexion un petit peu sur les conventions, la façon dont, à travers les habits, à travers la façon de s'habiller, c'est une réflexion très, très mélancolique sur le monde. Et puis, il y a d'autres passages, par exemple, il y a l'histoire incroyable incroyable, qui n'a rien d'incroyable en soi, mais qu'il devient du congrès où il doit aller
à Copenhague.
Et il y a un retard. retard, il va utiliser ce retard petit d'avion. Détail du retard d'avion pour essayer en fait de pour entrer dans la transgression suprême du conférencier qui est invité en disant je vais pas y aller et je n'irai pas, il veut pas y aller et à ce moment-là tout d'un coup ça devient presque un récit comme un peu un thriller.
Oui, et à chaque fois on voit qu'il se cache dans les toilettes de l'aéroport. Et de peur qu'on le reconnaisse.
C'est un romancier potentiel, virtuel, extraordinaire, Marcel Cohen. Je suis d'accord avec Philippe, ce chapitre-là est inouï. Il y a presque quelque chose de kafkaïen, puisqu'à la fin, son nom est appelé dans les haut-parleurs de l'aéroport, et ça se finit dans une sorte de traque absolument éprouvante et angoissante pour lui. Il a un art du roman inouï. Vous savez, c'est la définition du gentleman en Angleterre. C'est un homme qui sait jouer de la cornemuse, mais qui n'en joue pas. Je crois qu'il y a quelque chose comme ça par rapport au roman chez Cohen.
Parlant de Kafka, justement, il y a cette image, cette anecdote qui raconte très belle sur une petite fille qui perd sa poupée et comment Kafka trouve par les moyens de l'écriture la façon justement de la consoler sur un temps assez long. Et encore, c'est des petits détails, une anecdote qui raconte beaucoup de choses sur l'art et sur la façon justement de consoler avec l'art. C'est très joli. Alors, je ne raconte pas pour une fois.
Non, mais c'est très bien. Vous parlez très bien. Nous, j'espère que nous avons donné envie au plus grand nombre de lire Détails de Marcel Cohen chez Gallimard. Vous demandiez, Florent Georgescu, si cette émission pouvait donner envie de lire. Hier, on parlait de livres consacrés à l'art. Ah, Boris Pinault, un petit tweet qu'on a eu hier après l'émission, mais on peut le dire pour Florent, pour le rassurer.
Charleston avait l'air à l'écoute hier, qui a désormais très envie de lire le livre Une histoire des espaces alternatifs à New York de Soho au South Bronx de Pauline Chevalier.
Elle disait exactement, écoutez, la dispute ce soir donnait sacrément envie de lire ce livre. Voilà. Bon, c'est plutôt rassurant.
Que ce ne soit pas nous qui en parlions pour que les gens aient envie de le lire.
Mais non. Bon, si vous pouvez rassurer Florent Georgescu, n'hésitez pas à vous emparer d'un téléphone intelligent, d'un ordinateur, de ce qui vous permettra de nous envoyer un petit message. À suivre dans la dispute, Olivier Cadio et François-Henri Désérable.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Suite de cette émission consacrée ce soir à la littérature avec des retrouvailles, là encore, pour le tome 2 d'Histoire de la littérature récente d'Olivier Cadio, publié chez POL. Mais de quoi s'agit-il ? S'agit-il ? Alors, pour savoir, ce qui est très bien avec Olivier Cadio et avec ce tome 2 d'Histoire et littérature récente, c'est comme dans le tome 1, il y a les réponses aux questions qu'on se pose. Donc, j'ouvre le livre et le premier segment s'appelle « Un moment de détente » et commence ainsi. Si vous n'avez pas lu le tome 1, ce n'est pas grave, vous n'en avez pas besoin, vous êtes déjà dans la phase 2, vous êtes en avance. La phase 1, c'était pour dire « Tout va bien, détendez-vous, ne vous sentez pas obligé d'écrire, cela ne fera du bien à personne, même pas à vous ». Regardez les gens qui nagent pour nager, qui courent pour courir, pour entretenir leur corps machine, nager pour devenir nageur. Ah lui, c'est un grand nageur, quel ennui. Alors que se laisser dériver dans l'eau, c'est parfait. Courir pour attraper un train, d'accord. Nager pour rejoindre désespérément la côte, d'accord. Pour se sauver, d'accord. Courir pour résister au froid, échapper à une charge de facochère, oui. Mais écrire pour écrire, noircir des pages, faire son journal, balancer 10 000 mots par jour, raconter qu'on va voir sa mère tous les jours à l'hospice, que le buraliste n'est pas sympathique, que la poste a disparu, que ceci et que cela, décrypter l'enregistrement de l'interview de son grand-père mort qu'on aimait tant, ou de son père qu'on a haïssé, mettre tout ça au propre. Pitié. J'ai un peu exagéré pour qu'on parte sur des bases solides. Je me disais que les nuances viendraient après. On conviendra ensemble que ça peut faire du bien, les livres. Quand même, bien sûr, mais sans hâte, au dernier moment. On n'aura même pas le temps de le dire. Si vous voulez à tout prix vous exprimer, faites-le, mais en grand. Il faut que ça nous revienne à nos lecteurs et dans une forme dure et splendide, s'il vous plaît. Un monde qui tient tout seul en l'air, bien haut, une montgolfière, un zeppelin, un dirigeable, en pas trop fragile. Si vous vous sentez trop petit pour cette tâche immense, faites le contraire. Mais attention, c'est aussi délicat de faire passer la douleur par un trou de souris qu'avec un mégaphone. On ne veut pas de plainte, même pas de souris. Extinction des feux, on arrête de gémir, on est constructif, on a des exigences, un cahier des charges sévère, on attend de nouveaux livres de pied ferme. Florent Georgesco, hop, comme ça, bim, tome 2.
Juste après le mot ferme, ça fait peur.
De pied ferme.
Oui, oui, je parlais du dernier.
Oui,
je suis
moi,
faux,
des trois
je
derniers.
Suis... je suis faux, crient les sangliers. Voilà une citation de, du livre dans un dans une séquence sur
très belle citation.
Je crois que c'est la plus belle sur les limites sur Lascaux. Vous savez qu'on ouais. a dont on a fait un faux parce qu'on ne pouvait plus visiter le vrai sauf à l'abîmer. Le livre, comme toujours chez Cadio, est plein de fulgurances comme ça, de drôleries. Il a une intelligence, une richesse dans la. Dans la saillie, si j'ose dire, qui est toujours extraordinaire. Je regardais la page du même auteur de Cadio, je me suis aperçu que le livre Un nid pour quoi faire avait 10 ans aujourd'hui. Or, je m'aperçois que c'est un souvenir extrêmement frais. Je l'ai lu il y a 10 ans. Eh bien, Cadio est un auteur assez extraordinaire, d'une richesse, d'une intelligence assez extraordinaire. Auquel je suis très attaché, et qu'on retrouve très souvent dans ce livre, encore une fois par ses fulgurances, par ses idées extrêmement étranges, extrêmement neuves, qui secouent, qui montrent les choses sous un jour différent. Et en même temps, si j'ose dire, ce livre, comme le précédent, enfin ce n'est peut-être pas la veine que je préfère chez Cadio, je ne suis pas sûr que ce livre ne finisse pas un tout petit peu par tourner en rond. Il part dans beaucoup de sens, mais au fond, il retombe toujours sur ses pieds. Il y a une sorte de contradiction entre l'espèce de programme littéraire ou de manifeste littéraire qui court tout le long du livre et qui est son objet, semble-t-il, en partie, et la forme même du livre. Il y a un passage où il montre en creux, pour moi, sans se rendre tout à fait compte qu'il est en train de parler de lui d'une manière qui dénonce un peu ce qui est pour moi la limite de ce livre, c'est quand il parle, avec intelligence d'ailleurs, comme toujours, du fait qu'en écrivant, il faut éliminer pas mal de gens. Une série d'auteurs dont vous avez emprunté les visages et les manies, dit-il. Ce sont quelquefois de vrais auteurs, ajoute-t-il, qui peuvent jouer ce rôle de modèle successif, mais aussi bien une partie de vous-même, une de vos humeurs, devenue à force de réapparaître un de vos personnages favoris. Il parle un peu plus loin des voix. J'ai le sentiment, moi, que dans ce livre, il ne s'est pas débarrassé suffisamment d'une voix, d'une tonalité qui revient en permanence, qui structure le livre en quelque sorte. Une sorte d'ironie évidemment, mais une voix un peu au-dessus de la réalité dont il parle, de la littérature dont il parle. Un peu au-dessus, ça veut dire à côté, ça veut dire détaché, pas assez plongé. Je trouve qu'il n'a pas fait ce grand ménage dont il parle si bien, suffisamment dans la tonalité de son livre et dans sa structure. J'y reviendrai peut-être.
Philippe Chevillet sur Histoire de la littérature récente, tome 2 d'Olivier Cadio.
Eh bien moi j'avais un effroyable soupçon parce que moi j'ai découvert surtout pas Cadio et lu Cadio en fait au théâtre, vu Cadio, avec Ludovic Lagarde et avec Laurent Poitrenaud, et je trouvais que cette fusion d'un grand comédien, d'un metteur en scène avisé et de cet auteur un peu abstrait qui permettait d'ailleurs qu'on torte ses livres dans tous les sens et qui participait à cette aventure, ça faisait des textes un peu abstraits, parfois un peu abscons, mais des très jolis spectacles. Et là j'avoue que dans cette histoire de la littérature récente 2, et j'ai eu beau le lire une fois et demie, ça n'imprime pas. C'est-à-dire que le premier chapitre que vous avez lu, enfin le premier court chapitre, j'entends. Sur les autres, j'ai l'impression à chaque fois mon esprit s'échappe. Je trouve que il essaie de nous parler de la littérature. Il nous fait effectivement dans un style très joli, très bien écrit. Moi, j'aime bien l'écouter, l'entendre, mais ça ne me raconte rien. Alors je me dis, au fond, on a l'impression que cette singularité, parce qu'il y a une vraie singularité, c'est un vrai auteur, c'est quelqu'un qui est à part, mais on est toujours dans le ne pas. Alors, je ne veux pas faire une leçon de littérature. Donc, il ne fait pas une leçon de littérature, c'est très bien. Je veux faire des aphorismes, mais je ne veux pas des aphorismes qui soient trop simples. Je veux faire des images, mais qu'elles soient pas trop galvaudées. Et puis, je rajoute un peu de digression, et à la fin, on comprend plus rien. Donc, moi, à chaque petit chapitre, j'étais à deux ou trois exceptions près, où tout d'un coup, il y a des fulgurances quand il nous parle des parcs dans le monde, quand il y a des paysages qui sont décrits, ou les extraits sur les sangliers. Il y a des choses qui me plaisent, mais quand il parle de littérature, ça me laisse assez froid. J'ai cru comprendre, évidemment, d'abord, un, que la littérature n'était pas morte, deux, qu'il y avait, au fond, et ce qui était important, au-delà des pièces qu'on assemble, c'est cette espèce d'instinct poétique, qu'on est dans une musique. C'est-à-dire que quand il essaye de dire l'indicible, à la limite, il y arrive presque, mais il y a un système qui revient un peu obscur, et moi qui j'ai lu ce livre avec parfois un certain plaisir, mais un ennui poli. Voilà.
Bien. Jean-Christophe Brianchon, effectivement, à votre tour.
Selon lui, la littérature n'est pas morte, mais en revanche, on a quand même le sentiment à la fin que beaucoup d'auteurs devraient se taire quand même, d'après ce qu'il nous dit. Et moi déjà, c'est une idée avec laquelle j'ai un petit peu de mal, et c'est une idée globale de son livre avec laquelle j'ai du mal, dans le sens où je crois que c'est Max Jacob qui disait ça, que conseiller l'écriture, c'est déconseiller l'écriture, et je suis assez d'accord avec cette idée. Et lui, malgré tout ce qu'il fait, malgré son semblant de volonté de pas donner de conseils, finalement il en donne beaucoup, et je trouve d'une manière qui est parfois maladroite et qui peut m'agacer, d'autant plus m'agacer qu'il développe à certains instants une idée de la littérature ou de ce qu'elle devrait être avec laquelle je ne suis pas du tout d'accord, y compris, je crois que c'est Florent tout à l'heure qui nous disait que ou c'est dans l'extrait que vous avez lu peut-être, où il nous dit qu'en gros la sentimentalité individuelle des auteurs et l'histoire de leur vie, on s'en fout, faut qu'ils fassent de la littérature. Mais dans ce cas, on fait quoi de Marcel Cohen, justement?
Il dit pas ça.
Ah bah si, quand même. Il y a, quand il finit en disant pitié, pitié, donnez-nous des
nouveaux livres. Non mais c'est-à-dire s'il s'agit que de raconter que effectivement l'agonie de son grand-père, on s'en fiche. Il faut le faire en très grand, ou alors il faut le faire en plus discret, mais c'est pas plus facile.
On s'en fiche pas du tout. Il faut juste le faire. Il faut juste savoir le faire. Mais en soi, on s'en fiche pas.
Jean-Christophe, oui.
Et évidemment que je pense qu'il a une pensée plus complexe que. Mais malheureusement, sa pensée complexe ne se reflète pas dans les phrases qu'il écrit dans ce livre-là, parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup d'une manière générale. Que j'ai découvert par le théâtre, comme Philippe aussi, quand il était artiste associé à Avignon en 2010. Et j'ai vu des choses de lui qui m'ont beaucoup plu. Donc c'est quelqu'un que j'aime et que je sais intelligent. Mais là, en l'occurrence, je trouve qu'à ces instants-là, il développe une idée qui me dérange et qui remet en cause, encore une fois, pour moi, si on suit exactement ce qu'il écrit, pas forcément ce qu'il dit, mais ce qu'il écrit, des auteurs comme Marcel Cohen, dans ce cas-là, écrivent des choses qui n'ont pas lieu d'être, quoi, justement. Les détails de vos vies, on s'en fiche. C'est exactement ce qu'il dit.
C'est aussi délicat de faire passer la douleur par un trou de souris qu'avec un mégaphone. Marcel Cohen, il choisit le trou de souris et il trouve qu'effectivement, c'est difficile à faire. Après, il y a aussi, il faut quand même entendre ou lire ce livre à des tas de niveaux, degrés d'interprétation différents. Alors, c'est vrai que c'est un jeu aussi. Un jeu avec les jeux, c'est sérieux. Ça n'empêche pas de jouer avec son lecteur sans cesse. Quand il dit qu'il y a beaucoup trop de livres pas bons.
C'est pas ici qu'on peut dire le contraire.
Qui dirait le contraire d'un peu sensé quand même? Les librairies sont quand même encombrées de volumes qui n'ont aucun intérêt.
Oui, mais je trouve qu'il le dit beaucoup. Est-ce que ça sert à...
Je rejoins ce que dit Jean-Christophe, juste un tout petit peu différemment. Pour moi, le problème est qu'il... Il joue, mais il se donne. Son jeu est trop facile parce qu'il caricature ce à quoi il s'oppose. C'est-à-dire, là où je rejoins Jean-Christophe, c'est qu'on a souvent le sentiment dans ce livre que toute littérature du réel, par exemple, c'est une des choses qui traverse le livre, bien qu'à travers ça, il essaie de répondre à son propre titre, de faire une
Après
sorte
de fiction,
typologie.
Il faut scolter au réel maintenant.
Voilà, alors le goût du réel serait en fait toujours une faiblesse, toujours un avachissement, mais il se donne il se donne la partie trop belle dans ce livre, parce que il faudrait quand même s'affronter à tout ce qui, et c'est là que je suis d'accord avec vous Jean-Christophe, tout ce qui correspond aux typologies négatives dont il parle et qui est de la très grande littérature. On l'a vu ce soir en effet avec Marcel Cohen, je suis d'accord. Peut-être que Cadio, lisant Cohen, ne dirait pas, n'appliquerait pas à Cohen les mots qu'il applique à des évidemment, choses très générales là, mais le problème c'est qu'il ne pense pas qu'il peut y avoir dans l'interstice de ce dont il parle des Cohen. Donc il caricature, il schématise. Et je vais dire autre chose, du coup, c'est ce qui entraîne pour moi sa faiblesse, la faiblesse de sa propre écriture dans ce livre-là. La faiblesse relative, encore une fois. Mais un des contre-modèles qu'il donne, c'est dans un petit fragment qui s'appelle « Félicitations », il dit à celui à qui il est censé parler, vous n'avez suivi aucun de mes conseils, et ça y est, c'est le succès du coup. C'est-à-dire, dit-il, vous avez su dans votre livre employer un jeu où tout le monde reconnaît un nous, un jeu noyé dans la masse du nous, un jeu qui fait plaisir à tout le monde. Quoi. On voit bien à quoi il fait référence, mais encore une fois, le nous est possible aussi dans la littérature. Ce qu'il oublie, c'est que tout est possible et qu'on peut être bon en tout. Et lui s'enferme un tout petit peu dans sa propre écriture, dans une opposition trop forte à ses contre-modèles, et il est, à mon avis, un peu trop dans une recherche du jeu absolu, du jeu qui ne sera le nous de personne, et qui finit par nous mettre à l'écart, qui recherche tellement la singularité qu'il en fait une sorte de rhétorique de la singularité. C'est là que je rejoins Philippe, d'ailleurs aussi, sur le fait que, par moments, on lâche. Et en effet, je trouve que souvent, les chapitres commencent, mais parfois, comme toujours, comme dans ces romans qui sont pour moi très supérieurs à cette veine-là, on a une très grande intensité. On se dit, mais bien sûr, il fallait penser, il fallait écrire ce qu'il est en train d'écrire. Il est effervescent, il est puissant. Et puis, mais ce sont des fragments très courts, donc un paragraphe plus loin, on se perd. Pour le coup, dans des détails, mais qui pour moi sont un peu artificiels, qui sont comme une volonté de nous repousser, d'éviter justement ce nous consensuel. Mais il ne comprend pas qu'on peut jouer avec son lecteur, intégrer son lecteur dans son texte, l'accueillir sans être un idiot consensuel. Il n'y a pas le choix qu'entre l'obscurité et Jean Tellet.
Je soupçonne Olivier Cadio de le savoir très bien, tout cela. Et moi, je pense qu'il y a quand même...
Je ne suis pas d'accord avec lui.
Mais je pense qu'il y a une très grande part de mauvaise foi... Dans l'actualité, on dit j'assume. Je pense qu'il assumerait tout à fait tous ces reproches-là. Il dirait oui, je sais. Alors, je sais bien que Marcel Cohen, c'est formidable.
Mais on
voit bien qu'il soutient des propositions parfois contradictoires d'un segment à un autre. Enfin, moi, je le prends beaucoup moins sérieusement que vous, quand même, ce livre-là.
Qu'il y a un esprit de système, une ligne, en tout cas.
Philippe Chevillier.
Là, moi, où je suis d'accord avec Arnaud, c'est que je pense qu'il y a...
On est tous d'accord les uns avec les autres, un moment ou un autre, c'est pas merveilleux.
Merci, Philippe, allez-y. Vous pouvez vous arrêter là. La phrase suffit.
Mais c'est que je crois que, justement, les moments de manifeste, en fait, il a tendance un peu à les démolir, justement, par ces digressions, par cette façon de faire des effets un peu contradictoires, de nous perdre dans une image. Et du coup, je pense que c'est moins. Mais alors, c'est justement ce problème d'être entre toutes ces eaux. Au fond, quand on regarde on parlait de théâtre, mais quand sont présentées ces œuvres, c'est des romans qui deviennent des pièces. Donc, il n'y a pas de frontière pour lui entre l'essai, le roman, le théâtre, etc.
Sûr.
Donc, c'est ce qui fait encore une fois sa singularité. Mais je trouve que, à force de tourner en rond, c'est là que je l'accuse pas d'être aussi virulent que ça, parce que justement la virulence, elle se perd un peu dans ces moments d'humour ou digression, etc. Mais je lui reproche finalement peut-être de sombrer dans une forme de maniérisme à force de tourner dans ces petites vignettes, et elles ne sont pas limpides, à la différence de notre ami Marcel Cohen.
Quelques commentaires, Boris Pinault, concernant le livre d'Olivier Cadio.
Violette Villard sur Facebook écrit au sujet de son travail. C'est si difficile de faire ce qu'il fait, d'être Prime Sautier, déluré dans cet état de fiancé qu'il nommait déjà si finement dans le tome 1. Une sorte de rosée naissante à chaque fragment. C'est cela la saveur et la cadence Cadio. Et Joachim Séné, lui, sur Twitter, revient sur le tome 1 d'Histoire de la littérature récente. Très intelligent, surprenant, mais lu il y a longtemps. Et il m'en reste quoi? Un bon moment de lecture sans plus. C'est parfait, c'est très bon, mais ça ne fait rien trembler. Au fond, il manque un vertige.
Jean-Georges Esco.
Oui, je suis assez d'accord. Alors que il y a vraiment du vertige et vraiment d'une densité assez extraordinaire dans les romans de Cadio. Il dit à un autre moment, il parle du fait que écrire c'est rater, que c'est rater son projet. On veut faire quelque chose, on fait autre chose à chaque fois. Le bégonia que vous vouliez faire apparaître sur la page ressemblera à un cactus tordu. Le problème c'est qu'il ne se soumet pas assez. Comme vous disiez Arnaud, il assume, il sait ce qu'il fait en permanence et c'est ce qui finit moi par m'ennuyer.
Oui, je comprends, bon. Histoire et littérature récente, un autre message, Boris Pinault.
Oui, Clément M tient définitivement à vous rassurer, Florent. Vous écoutez les critiques de la dispute, le pousse à lire beaucoup, beaucoup de livres.
Je vous bénis.
Histoire et littérature récente, tome 2 d'Olivier Cadio, publié chez POL.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Et le troisième sujet de cette dispute littérature avec le troisième livre de François-Henri Désérable, intitulé Un certain Monsieur Picchiani, publié chez Gallimard. Il a été le seul roman en lice pour les 6 grands prix de la rentrée littéraire, même s'il n'en a au final reçu aucun. François-Henri Désérable raconte, on veut bien le croire, hein, dans le début de ce texte, un épisode de sa vie. Lui, qui fut joueur de hockey professionnel, hockey sur glace, il était à Vilnius, une histoire d'enterrement de vie de garçon un peu compliquée, d'avion raté, mais là il ne l'a pas fait exprès, contrairement à Marcel Cohen. Et donc il se retrouve en effet à se balader dans la ville et tomber sur une plaque rédigée en lituanien et en français, sur laquelle est écrit... L'écrivain et diplomate français Romain Gary, Vilnius 1914, Paris 1980, avec qui de 1917 à 1923, dans cette maison qu'il évoque dans son roman La promesse de l'aube. Il continue, Désérable, je restais là, stupéfait, ruisselant, et je récitais cette phrase à voix haute au numéro 16 de la rue Grande Poulanka à Vilno, habitait un certain monsieur Picchiani. Cette phrase, elle n'avait pas surgi de nulle part. Il avait fallu qu'un jour je la lise, l'enregistre en esprit, qu'elle s'y imprègne et demeure en l'état, immuable parmi les souvenirs, ces morceaux épars flottant ça et là dans les limbes et qui parfois ressurgissent de manière imprévue. Et donc le point de départ, c'est ce certain monsieur Picchiani. Philippe Chevillier, pour parler de ce livre.
Alors ce certain monsieur Picchiani, pour compléter un petit peu, qui dans le roman de Romain Gary, dans La promesse de l'aube, où il raconte son enfance, et donc la mère de Romain Gary pense que ça va devenir un grand diplomate et un grand écrivain, et donc ce monsieur Picchiani, qui est un petit homme falot qui habite à côté, dit bah ça serait bien si tu deviens célèbre que tu parles de moi, que tu dises qu'il y a un certain monsieur Picchiani habitait à tel numéro. C'est là que
tu rencontres les grands de ce monde
et que tu rencontre les grands de ce monde, ce qui sera le cas. Donc, moi, j'étais au départ, j'ai trouvé ce livre plutôt pas mal du tout. J'étais un peu réticent au départ parce que je n'aime pas trop les points de démarrage comme ça qui commencent avec une enquête un peu journalistique, littéraire, sur un jeu. Je craignais un petit peu l'essai un peu appliqué sur je raconte voilà, Romain Gary. Finalement, je trouve que le projet est à la fois relativement modeste, assez malin et plutôt sincère. C'est-à-dire que on a un peu, ça démarre un peu comme un jeu de l'amour et du hasard. L'amour, c'est pour le livre, La promesse de l'aube. C'est le seul livre quasiment qu'il lisait quand il était gamin, puisque c'était pas un grand littéraire quand il était gamin, puisqu'il était joueur de hockey, etc.
Ça peut ne pas empêcher.
Voilà, mais
vous
du coup, c'est vraiment
Philippe.
Le seul livre qu'il avait, qui un des. Un
si
des,
vous jouez au hockey, que vous nous écoutez et que vous lisez des livres, écrivez nous un message pour contredire Philippe Chevillier. Pardon, Philippe.
Pas du tout, mais je veux, bon, en tout cas, c'est ce qu'il dit lui-même, qu'il avait lu peu de livres et qu'il avait lu celui-là. Et donc, le hasard, c'est cet avion raté. Et à partir de là, donc, cette enquête littéraire, elle va être pas inintéressante parce qu'il va nous raconter à sa façon un peu un biopic de Romain Gary. Il va aussi nous raconter l'histoire parce qu'en donnant vie au personnage de Piquelny, il va tout d'un coup s'interroger sur ce ghetto qui a été Vilnius, et il imagine, puisque Piquelny juif pouvait finir dans un camp de concentration, de mourir dans un camp de concentration, il va raconter un petit peu l'histoire du ghetto juif et du coup, moi j'aime quand c'est dans les livres, il y a tout d'un coup ces morceaux de mémoire qui nous rappellent, qui nous donnent des détails encore une fois sur la Shoah et qui raconte aux jeunes lecteurs potentiels l'horreur que ça pouvait être. Je trouve ça passionnant. Et puis à travers en fait l'histoire de Romain Gary, que sa mère choyait en lui disant tu seras un grand écrivain, il raconte un peu la sienne, où sa mère voulait surtout pas qu'il soit écrivain. Donc il renvoie de façon un peu d'ailleurs un peu modeste, c'est pas non plus il en fait pas toute une histoire, mais du coup c'est une forme d'autofiction qui se crée, où il raconte un petit peu sa vie. Et pour finir, il y a quand même dans cette intrigue de recherche, qui est un peu une recherche vaine, mais qui lui apparaît importante parce que c'est l'histoire de sa passion pour un auteur, etc. Il y a un coup de théâtre à la fin qui est assez amusant, parce que là, on tombe dans le roman un peu de détective. Donc, c'est pour moi pas du tout un chef-d'œuvre, mais c'est un livre qui est assez touchant et plutôt agréable à lire. Voilà.
Bon. Modestie, alors c'est certainement pas, je pense, que le terme que j'aurais. Vous non plus, Jean-Christophe Briançon?
C'est ce qui m'interpelle le plus, effectivement, parce que vous avez dit que le livre était malin, je suis d'accord, malin en tout cas dans sa construction, parce qu'il y a une construction
c'est un compliment
qui nous permet
évidemment toujours un peu
c'est un compliment
ambigu.
Ambigu. Mais en tout cas, c'est certain qu'il y a quand même quelque chose dans cette construction qui permet au lecteur d'éprouver un certain plaisir. En revanche, pour ce qui est de la modestie, c'est quand même vraiment autre chose, et c'est peut-être là que le bât blesse. Sachant que moi, de prime abord, j'étais quand même très intéressé par cette démarche, parce que c'est une démarche qui me rappelle beaucoup celle de Dora Bruder, de Modiano avec Dora Bruder, d'essayer d'aller chercher quelqu'un comme ça. Et puis bon, alors c'est évidemment très très appuyé.
C'est rude comme comparaison, hein. C'est rude pour des érables.
Oui, mais malheureusement, il se met vraiment dedans. Et je pense que le passage, la fin de Dora Bruder, où Modiano dit qu'il a voulu, avec ce livre, tirer Dora Bruder, enfin, extraire de la vie de Dora Bruder son misérable secret, lui parle du pauvre et précieux secret de M. Piquelny. Je pense que c'est pas tout, à mon avis, évidemment, il l'a lu, et évidemment, il a tenté de faire quelque chose avec ça.
Il n'y a pas l'histoire de Modiano, c'est une vie plus, justement, une vie plus modeste, donc c'est pour ça, en cela, que je voulais dire que la comparaison, forcément, quoi qu'il veuille en faire, elle est une comparaison modeste avec la vie de Romain Gary aussi, enfin bref.
Moi je les compare juste pour ce qui est du projet, quoi, du projet d'essayer, et c'est un projet que je trouve très beau et très noble, et qui nous laisse entrevoir une croyance en la littérature qui est absolument formidable, cette croyance de pouvoir déterrer les choses et de protéger tout de l'oubli, comme on le disait avec Marcel Cohen. Donc c'est je partais avec un a priori très positif. Et en revanche, effectivement, moi, son manque de modestie m'a quand même particulièrement frappé, entre autres par les espèces de petites joutes verbales et du rapport qu'il essaye d'entretenir avec le lecteur, en partant du principe qu'on le connaît et qu'on est intime avec lui, alors que finalement, c'est évidemment un auteur qui prend de l'importance en ce moment, mais on peut pas non plus dire que le lecteur a une relation avec lui. Et alors c'est ces petites anecdotes qui s'enchaînent entre la manière dont il se fait voler son portefeuille à Vilnius jusqu'à son déjeuner au Procope avec une amie. Qui en 2017 à 30 ans déjeune au Procope, déjà aujourd'hui je sais pas, mais ça c'est un autre problème. François-Henri Désérable apparemment. Mais voilà, c'est des anecdotes qui finalement mettent un petit quelque chose de chic mais de pas utile sur le plan littéraire, et qui laissent entrevoir un certain manque de modestie qui m'a dérangé à travers tout le livre, malgré la beauté de la démarche.
Oui, parce qu'on pourrait quand même s'attendre à Romain Gary et moi, mais c'est plutôt un moi et Romain Gary. Moi, c'était ça la question de la modestie, là. Florent Georgesco.
C'est de la modestie aussi. Enfin, je ne sais pas. Est-ce qu'il se compare à Gary à un seul moment du livre? Est-ce qu'il prétend faire une grande œuvre avec ce livre? Je ne le crois pas. Il peut y avoir de la modestie à parler de soi. À parler de soi dans sa vie simple, en l'occurrence, sans prétendre à avoir accompli je ne sais quel exploit. Je ne suis pas totalement d'accord, mais peu importe. Enfin, de toute façon, les vertus personnelles de Monsieur Désérable ne m'intéressent pas. C'est un livre.
Nous non plus, hein, je vous rassure.
Non, mais ni non, ses mais vices.
C'est la lecture du livre. Se traduit dans quelque chose sur le plan littéraire.
En tout cas, peu importe ce que lui pense de son livre. Moi, je pense que c'est un livre modeste et que c'est cruel de parler de Modiano, évidemment. Mais écoutez, moi, je.
Ouais, mais je fais exprès.
Je peux dire un peu de mal de Cadio, mais aussi parce que c'est Cadio que j'attends beaucoup de lui. Je trouve que ce livre-là, celui de Désérable, est un livre léger, d'un type extrêmement prometteur, que je trouve souvent assez drôle, souvent avec un sens du mouvement dans son texte, du mélange, que je trouve assez heureux, mais simplement, ça ne va pas très loin. Il y a quelque chose, moi, que je trouve pour le coup modeste, enfin, quelque chose d'un peu touchant dans le rapport à Gary, quand il parle du goût du génie chez Gary. Quand à un moment, il rapporte que Gary disait « le talent m'emmerde, ce qui m'intéresse, c'est le génie ». Ou bien quand il parle du moment où Gary trouve les premières pages de La promesse de l'aube, quand il parle, lui, des érables, de l'éblouissement de cette sorte d'épiphanie séculière, de l'effervescence créatrice d'où allaient jaillir ces premières pages, on sent, moi je le sens assez lucide sur le fait qu'il n'est pas, qu'il est conscient de, il sait que ça ne lui est pas arrivé encore. Il a pour l'instant une sorte de faconde, de brio léger que je trouve encore une fois assez prometteur. Je dois dire, j'ai été très inquiet pour lui pendant tout cet automne, quand j'ai vu qu'en effet, il entrait dans toutes les listes de prix. C'est beaucoup trop tôt. Mais c'est vraiment beaucoup trop tôt. Ça aurait été terrible qu'il ait un grand prix cette fois. Qu'on le fige dans cette étape de sa vie. C'est un très jeune homme. Il commence. Je crois qu'il y a des promesses là-dedans. Il n'y a pas de quoi le lui tirer dessus à la mitraillette.
Alors, avant de revenir vers Philippe Chevillier, Boris Pinault, des commentaires sur Twitter, Facebook, je ne sais pas.
Rémi Sabran écrit via Facebook sur un livre assez malin, très jeune. La réalité semble se noyer à la fiction et l'effet miroir avec Gary Ajar est parfait. Une lecture facile et agréable, ce qui est déjà pas mal. Jacqueline Payet dit avoir beaucoup aimé ce livre, comme une enquête dans le mentir vrai, celui de Romain Gary, mais aussi celui de l'auteur, pardon, qui nous embobine parfois. Écriture également du ressassement, écriture poétique dans des description de la pluie sur Vilnius, lecture jubilatoire.
Vilnius,
pardon.
Oui, c'est... Non, moi, je crois que le personnage qu'on sent derrière, il raconte un peu sa vie, n'est pas la vie d'un jeune bourgeois germano-pratin qui passe sa vie dans des grands milieux littéraires, etc. C'est plutôt, justement, on le sent émerveillé, ravi de pouvoir mener une carrière littéraire alors qu'il n'était pas parti pour ça et qu'en plus, il a une opposition familiale. Donc voilà, c'est pas encore une fois une révélation extraordinaire d'un point de vue littéraire, mais moi je crois qu'il y a à la fois le côté malin et la sincérité, ça n'empêche pas de cette passion tout d'un coup partant d'un livre, partant de la passion pour la littérature, de dire maintenant je suis un écrivain. Alors ça sera peut-être pas le plus grand des écrivains, mais je lui vois pas du tout une prétention extraordinaire dans ce roman et qui en plus c'est quand même plutôt bien fagoté par rapport à d'autres qu'on peut lire. Donc voilà, je trouve ça un peu dur de s'attaquer à ce jeune
Jean-Christophe Bréhanchon, rapidement.
Je ne sais pas si c'est de la prétention ou de la maladresse. C'est peut-être de la maladresse, ne serait-ce que par tous les parallèles qui tissent à longueur de, enfin pendant tout le roman entre lui et Romain Gary. Alors c'est des hasards dont il tire la ficelle.
C'est une admiration
entre le fait que leurs deux mères effectivement avaient un petit peu les mêmes attentes envers eux.
Il le fait quand même de manière extrêmement clair sur le fait qu'il n'est pas en
clair
train de se comparer
drôle,
à
plus,
Gary,
accessoirement.
Mais tout ça,
bout à bout, ça finit par faire un geste dont on présuppose qu'il peut manquer de modestie, ce qui n'est peut-être pas le cas de la personne qu'il est, mais en tout cas, ça se retranscrit dans sa littérature et je trouve ça problématique.
Un dernier mot, Florent Georgesco.
Encore une fois, une promesse. Ça tombe bien, il tourne autour de la promesse de l'aube. Il y a de la promesse chez Désérable. Il lui reste à trouver beaucoup de choses. Il y avait beaucoup d'autres choses à dire sur tout ce qu'il traite. J'ai découvert moi aussi un jour par hasard la plaque à Vilnius. Où c'est très émouvant. En effet, je suis certain qu'il aurait pu se plonger un tout petit peu plus dans les rues de Vilnius, qui est une ville passionnante, d'avoir un tout petit peu plus de réel là-dedans, de s'affronter un peu plus au réel. Tout cela est vrai. Mais il est en train de réunir les outils pour ça. Vous verrez, je pense que...
Cadio n'est pas d'accord.
Mais Cadio n'est d'accord avec rien, vous savez bien.
Comme Florent Georgesco un peu. Bon. Un certain monsieur Picanini.
J'étais d'accord avec vous tout le long de l'émission.
Oui, on a tous été d'accord.
Avec tout le monde.
Comment on refait
avec tout le monde, oui.
Bon, c'est ce livre de François-Henri Désérable, publié chez Gallimard. Et peut-être qu'on se retrouvera pour parler du prochain. Allez savoir.
Mais oui, attendons.
avant le prochain François-Henri Désérame, il y a le jeu de la dispute, déjà, c'est tout de suite.
De quoi patienter, c'est bien.
On va patienter avec la question d'hier soir et bien sûr sa réponse avec Grégoire Di Fiore.
Quel est le nom du lac artificiel situé dans l'enceinte de Disney World en Floride? Et la réponse était le Seven Seas Lagoon.
Ça, c'est pour Florida Project, le film dont on parle demain. Gagner
c'est
ce
soir.
C'est
pas Marcel Cohen qui aurait trouvé ce détail.
Oh, allez savoir.
Capable
de tout. Ce soir, on fait gagner des invitations pour l'exposition Hello My Game Is de l'artiste Invader. C'est au Musée en Herbe à Paris jusqu'au 7 janvier, plus beaucoup de temps. La question, Grégoire?
Après avoir créé un parc d'attractions à Bristol, dans quelle ville Banksy a-t-il ouvert un hôtel?
Votre réponse, ainsi que vos coordonnées postales, à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez également réécouter nos émissions, bien sûr vous abonner au podcast si ça n'est pas déjà fait, préparer vos commentaires pour l'émission de demain à poster sur la page Facebook La Dispute FC dès maintenant, à moins que vous n'attendiez le direct pour commenter en suivant le compte Twitter Dispute FC. Demain donc 19h, dispute cinéma avec Charlotte Garçon, Thierry Chaise et Philippe Azouri. À notre affiche, The Florida Project de Sean Baker, A Ghost Story de David Lowery et un coffret DVD 29 films inédits en DVD de Jean Rouch sous le titre Un cinéma léger, et c'est aux éditions Montparnasse.